De vous à nous, votre émission psy avec Jean-Charles Clément sur Radio Aviva. Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail de vous à nous @radio-aviva.com.
Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Martine.
Alors, Jean-Charles, lors de notre précédente rencontre, nous avions envisagé les différents praticiens de la psychanalyste, les différents psychanalystes que peuvent rencontrer nos auditeurs et patients. Et aujourd'hui, nous avons pris le pari de parler des différentes approches de la psychanalyse. Alors, je sais, Jean-Charles, que seule la théorie de la psyché n'est pas obligatoire. Il y a d'autres définitions de la psychanalyste ou de l'approche de la psychanalyse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, Martine, il y a, pour être psy, on va dire, il y a beaucoup de méthodes différentes pour prendre en soin des patients. Parmi elles, il y a les thérapies cognitives, la systémie, beaucoup de théories. Il y a aussi la psychanalyse, qui est une théorie que j'utilise dans ma pratique. Voilà, on va commencer par la psychanalyse. On a vu la dernière fois que, en fait, il existe un inconscient qui n'est pas accessible directement et que la psychanalyse est une méthode pour accéder à cet inconscient. Et en accédant à cet inconscient, le psychanalyste ou la personne qui utilise la psychanalyse va pouvoir aider son patient à se libérer du symptôme.
Voilà, et même à le soulager. Pourtant, je pense que il y a quand même des, on va dire, des barrières, des défenses qui embarrent l'accès.
Oui. Alors en fait, lorsque nous sommes éveillés, on va dire, dans la vie courante, il y a des défenses qui empêchent cet inconscient d'apparaître directement, parce que l'inconscient est très désordonné. Hein. Donc, ce sont des défenses. Et bon, voilà, l'inconscient, on le voit apparaître en fait lorsque l'on rêve, et aussi dans les actes manqués de la vie courante, et aussi les lapsus quand on prend un mot pour un autre. Les rêves sont une base importante de la psychanalyse, puisque Freud a utilisé les rêves au départ, et un des premiers ouvrages portant sur la psychanalyse est l'interprétation des rêves, qui est paru en 1899.
Oui, ça date de la fin du 19e siècle, donc c'est assez récent quand même comme approche.
La psychanalyse est... C'est assez jeune comme théorie.
Voilà,
comme
c'est une théorie qui est assez jeune. Alors, il y a aussi l'hypnose. On en parle beaucoup. Beaucoup de praticiens en ce moment l'utilisent. Je sais qu'il y a des tas de formations en hypnose. Il y a même des praticiens, par exemple, pour ne parler que des chirurgiens dentistes, qui pratiquent aussi l'hypnose. Mmh. Alors, là aussi, on attend votre point de vue.
Oui, alors l'hypnose, c'est... Freud a utilisé l'hypnose au départ, en fait. Donc aujourd'hui, on utilise l'hypnose qui a des effets, hein, puisque c'est utilisé contre la douleur dans les blocs opératoires, enfin certains. Freud a utilisé l'hypnose parce que c'était assez répandu à l'époque d'utiliser l'hypnose. Le praticien plaçait son patient sous hypnose et en le questionnant, essayait de retrouver une forme de traumatisme initial, on va dire. Alors, il y avait des effets immédiats, le patient pleurait, il y avait une décharge émotionnelle, on va dire, mais c'était pas durable dans le temps. Donc Freud, à partir de ce constat, a voulu opérer un pas de côté dans la pratique, on va dire, et il a essayé de laisser parler ses patients, qui étaient aussi en demande de parler librement, et c'est là qu'on a pu commencer ce qu'on appelle l'association libre. Ça lui a permis d'observer le discours de ses patients et de fonder la psychanalyse et aussi les rêves. Enfin.
Oui, donc est-ce qu'il a utilisé Freud, a-t-il utilisé le divan dès le départ?
Non. En fait, ouais, au départ, il recevait ses patients comme tous les médecins. Parce que...
Et donc en face à face.
En face à face, voilà. Et puis ensuite, il a eu une forme d'intuition et il a préféré. Parce que quand on parle avec quelqu'un ou un médecin, de toute manière, il y a la question du regard. Donc il a voulu libérer les patients de cette question du regard et lui aussi, il s'en est libéré. Ce qui fait qu'il les a placés sur un divan, lui assis derrière les patients. Et ça permet de décaler le discours et d'ouvrir vers d'autres choses.
Et donc le patient est beaucoup plus libre finalement de s'exprimer. Alors, on me parle aussi de temps en temps de psychanalystes qui restent muets. Et les gens, tout un chacun me dit, c'est très déstabilisant comme méthode. J'ai quelqu'un en face de moi qui ne bronche pas, qui ne parle pas, qui ne me renvoie pas une question. Alors,
oui,
qu'en est-il?
Bon, en fait, voilà, j'ai souvent des patients en cabinet qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont allés voir un psychanalyste et c'est quelque chose qui les a fait arrêter, en fait. Ils avaient du mal à se retrouver face à une personne qui était quasiment silencieuse. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas au travail. Mais en tout cas, pour le patient, c'était déstabilisant. C'est vrai que ça peut l'être, puisque le patient, lui, peut-être s'attend à des réactions de la part du psychanalyste quand il développe son discours. Voilà. Mais ça a un vrai intérêt de rester silencieux et de laisser le patient élaborer son discours pour analyser justement ces enchaînements. Parce que c'est là qu'on voit aussi apparaître les effets de l'inconscient.
Bien, écoutez, merci Jean-Charles. Nous allons avoir une pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi. Mon Hawaï à moi, cette île que j'aperçois de la plage de Grandville. Tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour tout recommencer à Jersey. Prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi.
Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail de vousanou@radio-aviva.com.
Alors, nous nous retrouvons, Jean-Charles, nous venons de parler de la psychanalyse. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose d'envisager les autres théories que nous trouvons en psychologie.
Voilà, donc on a parlé de la psychanalyse et donc maintenant on va essayer de parler de thérapie comportementale et cognitive. Qui est une autre théorisation, on va dire, de l'esprit.
Est-ce que vous pouvez définir pour nos auditeurs un petit peu ce qu'est cette théorie comportementale et cognitive? Je crois qu'on l'appelle dans votre langage TTC.
TCC, oui.
Voilà, TCC. Alors, qu'est-ce que c'est?
Voilà. Alors en fait, donc il y a deux versants, comportemental et cognitif. J'ai repris une définition qui est sur le site, c'est l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, afin qu'on soit vraiment au plus juste, puisque c'est pas ma spécialité. Donc on nous dit que c'est une méthode de prise en charge de la souffrance psychique qui est issue de la méthode expérimentale, qui est une méthode, la méthode expérimentale, c'est une méthode scientifique, on va dire. On nous parle aussi de théorie des apprentissages et de... En fait, le postulat de base des TCC considère un comportement inadapté comme une phobie, comme la résultante d'apprentissages liés à des expériences antérieures survenues dans des situations similaires. Voilà. Et l'objectif de la thérapie est de remplacer un comportement inadapté à un comportement plus adapté pour le patient. Et on parle de stratégie thérapeutique.
Est-ce que vous considérez cette méthode, alors, est-ce qu'elle est considérée comme une méthode très scientifique ?
Oui, elle se veut scientifique aussi, puisqu'elle s'appelle comportementale et cognitive, ça fait des références précises à des orientations en psychologie. Et donc, en fait, oui, on est dans une forme de tentative de science exacte, on va dire.
Oui.
Ce qu'on appelle, parce qu'en fait, il y a les sciences dures, ce sont les mathématiques, les sciences physiques, par exemple, ce sont des sciences dures. Donc, on tente avec les TCC d'aller vers des théorisations plus. Scientifique de l'esprit, mais bon, on voit bien qu'on est assez loin de la psychanalyse là dans cette situation.
Tout à fait. Voilà. On travaille comment là donc ?
Alors les deux versants, il y a le versant comportemental. Donc on parle là, ce sont les théories de l'apprentissage. On parle de renforcement, d'habituation, de récompense. C'est typiquement le cas du réflexe de Pavlov.
Voilà. Donc là. Concrètement, pour nos auditeurs, vous observez le comportement de l'individu, de l'humain.
Oui, enfin moi je ne suis pas.
Oui,
je
non,
fais
bah,
pas TCC, mais.
Vos confrères qui pratiquent cela.
Oui, en fait, ça, c'est basé sur l'environnement et sur le concret de la vie au quotidien.
Au quotidien, voilà.
Et il y a le deuxième versant qui est le versant cognitif. Alors cognitif, ça veut dire c'est la manière de c'est un rapport au cerveau en fait, c'est la manière de comprendre et de comment pas utiliser un terme scientifique, enfin d'ordinateur, c'est-à-dire de traiter des données, hein, cognitives. Donc c'est pour le cerveau. Donc là on parle de cerveau ordinateur, de connexion, ça fait référence aux connexions des neurones. Et là le but en fait est de, on parle aussi de représentation, d'image mentale, pour faire disparaître le symptôme. On essaie de changer ces représentations là, qui ne sont pas du tout les mêmes représentations que quand on parle en psychanalyse, en fait.
Oui, par exemple, si l'individu a, par exemple, une sorte de dévalorisation de lui-même, vous essayez, à ce moment-là, de transformer ce négatif en positif,
si je
comprends bien.
Dire ça, oui.
Voilà, on va schématiser pour nos auditeurs, de manière à le remplacer, de faire passer cette zone négative à la zone, disons, positive. Hein. C'est là où vous appelez la disparition du symptôme, donc.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est là où est le débat aussi, c'est parce que ce symptôme-là, quand il disparaît, qu'est-ce qu'il devient ? Est-ce qu'il disparaît vraiment ? Est-ce qu'il se déplace ? Est-ce qu'il va... Enfin, donc, voilà, c'est là où il y a... Là où c'est sur ce point-là aussi qu'en psychanalyse, on s'intéresse aux symptômes et au sens du symptôme. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire disparaître comme ça. Quelqu'un qui a des phobies va venir et on ne va pas s'évertuer à faire disparaître cette phobie parce que pour le psychanalyste, elle a un sens. Après, voilà.
Vous risquez de le déplacer, tout simplement.
Voilà,
il va s'exprimer d'une
se
autre manière.
Sur notre symptôme qui risque parfois d'être plus invalidant. Donc, si ce symptôme-là existe, c'est parce qu'il a un sens pour le sujet. Et voilà. Et il ne faut peut-être pas tout de suite le faire disparaître parce que ça risque de faire plus de dégâts.
Donc, en fait, ce qu'il faut pour le patient qui vous consulte, et quel que soit qui vous consulte vous, qui consulte un autre confrère, c'est vraiment de trouver pour le patient la théorie qui lui convient.
Oui, voilà. Pour au-delà du débat psychanalyse-comportementalisme, c'est chacun trouve ce qui lui convient en termes de lien et de. Il y a aussi donc il y a des théories, mais il y a aussi la question du transfert qui est le lien entre le patient et son thérapeute. Et donc ça c'est important, c'est beaucoup travaillé en psychanalyse, c'est-à-dire qu'on analyse le transfert et aussi le contre-transfert qui est ce que ressent le psychanalyste pour son patient. Donc cette question du transfert, elle est toujours à l'œuvre. Donc même si on va chez un, on croit pas au transfert, mais qu'on va chez un psychologue qui pratique les thérapies comportementales et cognitives, il y a toujours du transfert, et ce transfert est déjà une manière de soigner, en fait.
Alors, je vais vous poser une question, par exemple, personnelle. Je vais chez un psychologue, un psychanalyste, je ne ressens absolument aucune attirance par rapport à cette personne, j'ai pas du tout envie de travailler, on m'a dit c'était quelqu'un de super, etc. Fais l'effort d'y rester, je n'ai pas envie. Est-ce qu'il faut que je continue ou pas?
Moi, je dirais oui. Parce que ça permet de travailler justement ce sentiment que vous avez en allant voir cette personne de quelque chose de désagréable, on va dire. Alors peut-être parce que c'est votre inconscient qui veut pas être remué en allant travailler, mais c'est peut-être aussi la personne que vous rencontrez qui vous rappelle quelque chose, une autre situation qui... Voilà, le cerveau est assez très complexe, une machine complexe. Donc,
il crie de lui-même, enfin,
voilà, on
ne
sait pas ce qui,
voilà,
ce qui plaît ou pas chez une personne. Quand on rencontre une personne, qu'on la trouve sympathique, en fait, on ne la connaît pas, mais on la trouve sympathique. Donc c'est bien que le cerveau se rappelle d'autres situations et d'autres personnes.
Donc il ne faut pas obligatoirement, chers auditeurs, que le thérapeute soit sympathique. Il faut continuer la démarche que nous avons, que vous avez commencer.
Il faut au moins persévérer quelques séances pour voir si vraiment ça mène quelque part. Mais au premier entretien, après le premier, c'est pas une vraie démarche, on va dire.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile. Ma fille, et te voilà, et me voici, moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est né à né, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile, de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idylles, des mots doux sur tes peaux, et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant, Cécile, ma fille.
Cécile. Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail de vousanou@radio-aviva.com.
Alors Jean-Charles, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission, et j'aurais souhaité que dans cette partie, nous abordions le problème du premier entretien. Parce que c'est vrai qu'un premier entretien pour un patient, franchir la porte d'un psychanalyste, d'un psychologue ou autre, disons que parfois ça relève d'un certain courage. Alors je voulais savoir comment ça se passe.
Bon, on va voir comment se passe le premier entretien, en fait, chez moi.
Enfin, dans mais bien
cabinet,
sûr, on va prendre notre exemple.
Je ne connais pas vraiment la méthode, voilà. Enfin, je connais de loin la méthode des autres psys, mais
ben voilà,
chacun
va...
a sa méthode.
Prenons votre exemple.
C'est pour ça qu'il y a...
Je viens chez vous, comment ça se passe?
Voilà. Donc, en fait, il y a d'abord la question de la demande. Il faut que vous soyez, vous ayez une demande, c'est-à-dire souvent c'est un symptôme. Donc les personnes viennent parce qu'elles ont peur ou elles ont des problèmes au travail avec certaines personnes. Donc il y a cette porte d'entrée. Alors après, en tant que psychologue, voilà, la question de la demande, c'est important parce que, par exemple, je ne peux pas recevoir des personnes qui ne font pas directement la demande parce que voilà, c'est important qu'elles s'expriment, même quand je travaille en institution. Alors, après, il y a le cas particulier
dites,
des enfants.
Voilà, quand vous dites la demande, c'est la personne elle-même, l'adulte, qui vous appelle en disant « je souhaite vous rencontrer
voilà. ».
Et ce n'est pas un intermédiaire.
Pas un ami ou quelqu'un de la famille.
Voilà.
Ou,
Par contre, un enfant, là, vous acceptez les parents.
Voilà, un enfant, ce sont les parents. Il y a un premier entretien avec les parents. Et au cours de cet entretien, je m'assure que l'enfant aussi est en demande d'effectuer un travail, on va dire. Qu'il soit... Je peux pas travailler contre l'adhésion des personnes, en tout cas. Sous la contrainte, comme on dit.
Très bien. Alors, le cadre, je suppose que ça se passe dans votre bureau?
Oui, alors le bureau, mais le cadre, ça regroupe aussi ce contrat moral que l'on a. Parce que... Quand on va chez un psy, c'est aussi s'engager. Je disais tout à l'heure qu'il faut persévérer. C'est vrai que c'est bien de s'engager sur quelques séances parce que c'est aussi un engagement de la part du psy. Donc, bon, il y a des effets au premier entretien, mais ils sont aussi durables dans le temps. Donc, je pense que quelques séances pour se donner le temps de voir, on va dire, c'est pas mal. Donc ça fait partie d'une forme de contrat moral. Enfin... On n'arrête pas comme ça, on donne... C'est difficile. Enfin, ça arrive, hein, bien sûr, mais on évite de disparaître pour son psy, on évite de disparaître comme ça parce que...
Est-ce que vous êtes soumis au secret médical comme les médecins?
Oui, voilà. Comme les médecins, on est soumis au secret médical, c'est important aussi parce que ça permet aussi d'avoir la confiance des patients qui peuvent donc venir déposer une parole qui est forte et qui sont parfois des choses importantes pour eux. Un endroit où ils ne peuvent pas dire, ils peuvent dire ce qu'ils ne peuvent pas dire ailleurs.
Voilà, par exemple, une épouse vient parce qu'elle souffre des brutalités ou du comportement de son mari. Le mari vous appelle pour savoir si son épouse vient vous rencontrer. Vous êtes, et pourquoi ? Vous êtes tenu au secret médical et vous ne divulguerez ni ses venues, ni le pourquoi elle vient.
Oui, tout à voilà. fait. Moi... Quand on me téléphone parfois pour me dire est-ce que telle personne vient, moi je réponds même pas sur le fait que cette personne m'a contacté ou a pris des rendez-vous. Enfin, c'est vraiment important pour moi de cette confidentialité, ce secret.
Alors le rythme des séances, parce que parfois certains me disent c'est toutes les semaines, parfois tous les 15 jours, parfois tous les mois. Est-ce que vous adaptez le rythme aux problèmes décelés?
Oui, bien sûr. Alors, on adapte. Alors, bon, on est dans une époque moderne où c'est assez compliqué pour les patients de s'engager dans quelque chose qui soit vraiment fréquent. À l'époque de Freud, c'était plusieurs fois par semaine. Maintenant, quand on arrive à une fois par semaine, c'est déjà beaucoup, enfin, je pense. Donc, bon, on peut dire une fois par semaine. Pour ma part, plus d'une fois tous les 15 jours, ça commence à être compliqué. En tout cas, en début de travail. Après, peut-être que si c'est une personne qui vient depuis plusieurs mois, on peut se voir une fois par mois pour faire le point. Mais on est moins dans un travail en profondeur, on va dire, dans une forme de soutien psychologique.
Alors, une petite question. Quand vous voyez ces gens, une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, est-ce qu'ils repartent, j'allais dire, avec un devoir, pas de vacances, mais un devoir hebdomadaire? Vous les laissez sur une question auquel ils doivent réfléchir?
Non, c'est une bonne idée, je pourrais faire ça. Mais non, en fait, il n'y a pas de méthode. C'est-à-dire que ça dépend de la situation. Après, moi, j'ai une technique que j'utilise. Je conseille à mes patients d'écrire sur un carnet soit leurs rêves, soit leurs pensées. Et après, éventuellement, s'ils veulent venir en parler et ramener, revenir avec le carnet. Donc, si on pouvait. Une chose qui serait commune à tous mes patients, ça serait plus ça, de leur conseiller d'écrire, parce que c'est important de pouvoir être dans un travail, même hors du cabinet.
Alors, la dernière question qui est importante pour nos auditeurs, c'est le problème financier. Je sais que les séances, ce qui est tout à fait normal, c'est votre travail, sont payables, sont liées à un paiement. Ce paiement, il peut être en liquide, en chèque, etc. Et est-ce qu'ils sont remboursés? Est-ce que ces séances sont remboursées? Si elles ne sont pas, pourquoi est-ce que ce paiement, ce geste, fait partie de la thérapie?
Alors, il y a beaucoup de choses dans la question du paiement. Alors, les psychologues, peut-être les psychanalystes... sont remboursés par certaines mutuelles. Il y a des forfaits ou peut-être plusieurs séances dans l'année qui sont remboursées. Il faut se renseigner auprès de sa mutuelle, puisqu'on ne sont pas comme les médecins qui, eux, sont remboursés. Voilà. Et après, dans la question du paiement, il y a surtout, comme vous disiez, quand vous avez parlé de devoir tout à l'heure, ça m'a fait penser... en fait, le patient me doit rien. C'est-à-dire que le paiement l'acquitte de la dette. Pas forcément de la dette réelle, c'est-à-dire me donner de l'argent, mais de la dette symbolique, qui est de savoir qu'en me donnant cet argent, il n'y aura pas de retour. Comme parce que les gens disent parfois, moi j'ai des amis, j'ai pas besoin de psy, mais on peut s'apercevoir assez facilement, on va dire, avec l'expérience, que ce qu'on confie parfois à des amis ou des proches, ça peut revenir sous une autre forme. Chez le psy, ça revient pas, en fait. C'est pour ça qu'on peut déposer une parole sereinement. Voilà. Et après, pour le remboursement, il y avait un projet en 2012 qui était de rembourser consultation, mais c'est avec la crise, là, c'est un peu tombé à l'eau.
Bon, bah écoutez, Jean-Charles, merci infiniment pour ces explications. On a bien compris que le paiement faisait partie de la thérapie. Et chers auditeurs, bah écoutez, je vous engage à nous écrire à Radio Aviva si vous avez des cas concrets à soumettre à Jean-Charles. À très bientôt donc, et merci encore.
De vous à nous, votre émission psy avec Jean-Charles Clément sur Radio Aviva. Pour joindre Jean-Charles Clément, envoyez-lui dès à présent toutes vos interrogations, vos problèmes par mail devousanou@radio-aviva.com.